recevons notre premier invité, c'est Slimane. Bonjour Slimane.
Bonjour.
Alors, il y a un album qui vient de ressortir, ça s'appelle Solune Renaissance.
Oui. C'est un album qui est sorti à la base fin janvier. Et voilà, j'ai vécu sur scène avec cet album, etc. Et on avait envie de rajouter quelques chansons.
Vous avez rajouté votre duo, un duo avec Vita.
Oui, c'est ça.
Je te donne. Et il y a un hit, Bella Ciao Fit, c'est quoi ça?
Bella Ciao, c'est en fait une réunion un peu de potes, quoi. On a fait une reprise avec Maître Gims, Dadju et Vita. Et Naestro. Et donc il y avait cette chanson aussi, voilà, qui a pas mal marché cet été. Et je voulais la mettre dans mon album aussi. Et il y a deux inédits, dont Nous deux, que je vais chanter tout à l'heure.
Qui est une très belle chanson.
Ben, merci beaucoup.
C'est une chanson sur les ex, Nous deux, c'est pas fini, c'est ça?
Ouais, c'est un peu ça. En fait, c'est l'histoire, c'est tout bête, mais j'ai un de mes meilleurs amis qui un jour est arrivé très mal en point chez moi et qui m'a raconté son histoire. Et,
d'amour.
Et ouais, d'amour
fini.
D'amour fini. Et ça m'a vraiment touché. Et j'ai écrit cette chanson et le lendemain, je lui ai envoyé et je lui ai dit, écoute, je sais pas si ça peut t'aider, mais tiens, si t'as envie de lui faire écouter, fais-lui écouter.
Ah, et alors Il a récupéré ou pas?
En bise-bise.
Ah ouais. Génial. Donc il l'a récupéré un peu.
Ouais, un peu. Après,
c'est-à-dire, c'était vous qui chantiez. Peut-être elle tombe amoureuse de vous en écoutant la chanson.
Non, parce que je l'ai bien dit d'expliquer que c'était son histoire et tout ça. Et du coup, cette chanson, je pense qu'on se rend jamais assez compte du pouvoir de la musique. La musique, ça peut rouvrir des portes.
Enfin, quand on sait chanter, mais quand on sait pas chanter.
Ouais, quand on sait écouter parfois.
Ouais.
C'est juste ça, je crois que c'est.
Ça vous déchaquera.
Et ouais, avant, moi, j'étais toujours du genre à dire, ouais, mais tu sais, on sauve pas des vies, on fait que de la musique.
C'est pas vrai.
Et en fait, je me suis rendu compte à quel point la musique pouvait parfois sauver des vies et sauver des âmes et faire du bien.
Mais même quand on fait l'amour, tout dépend de la musique.
Moi, avec ma femme, on a arrêté les Magic System parce que.
C'est trop fatigant.
Sophie Aneta, il y a des choses à vous dire, Slimane.
D'accord.
Oui, bonjour Slimane. Je voulais défendre en fait une cause qui me tient à cœur. Je voulais parler d'une catégorie de personnes bafouées depuis bien trop longtemps. Des personnes méprisées, mal considérées, les retardataires. Vive le retard et vive les retardataires. Nous sommes les héros du quotidien. Et oui, là où une personne lambda arriverait à l'heure, hein, aucune originalité si je puis me permettre, eh bien nous, les retardataires, nous arrivons en pleine matinée et il ne nous reste plus qu'à aider les collègues déjà sur place à finir le travail. C'est ça le travail d'équipe. On s'adapte à vous, bande d'égoïstes.
Pourtant, vous êtes arrivé à l'heure, Sofiane, ce matin.
Ah, bien sûr, mais je ne voulais pas rater nos invités. Hein. Quand j'ai vu le nom Slimane, je me suis dit tout de suite qu'avec un Slimane et un Sofiane dans le studio, si le deuxième invité commence par Eric et finit par Zemmour, on va insister à un grand moment de radio.
Alors Sofiane, vous teniez à rencontrer Slimane ?
Oui Slimane, car vous m'inspirez. Votre album s'appelle Solune, un mélange entre soleil et lune. Et dans ma vie, j'arrive souvent en retard. C'est-à-dire pas totalement en retard, mais pas tout à fait à l'heure non plus. Voilà. En plus Slimane, vous êtes l'invité idéal en ce moment. Vous venez de Seine-et-Marne, c'est bien ça ?
Oui, c'est
voilà.
Vrai.
Quoi de plus logique en ces temps de grogne contre les prix du carburant que d'inviter un artiste né à Shell ? Je ne voulais donc pas rater ça, hein. Je suis arrivé à l'heure, même si je sais qu'un jour les retardataires dirigeront le monde. J'en veux pour preuve le jour de la démission de Gérard Collomb, Édouard Philippe est arrivé 20 minutes en retard. Moi aussi un jour je veux avoir un poste à haute responsabilité et j'y travaille. Même en famille, hein. Quand on a un rendez-vous et que les gens s'impatientent devant notre retard, je leur envoie un SMS qui rappelle le nom de votre tournée. On arrive. Allez. Et oui, vous aviez déjà tout compris Slimane, vous aviez déjà tout compris. En plus quand on voit l'affiche de la tournée, hein, je la montre un petit peu au public dans le studio, quand on voit l'affiche de la tournée, les mains dans les poches et le corps en arrière, vous avez typiquement la posture du mec en retard et pas stressé. Alors j'ai juste une question à vous poser Slimane, puisque l'avenir appartient à ceux qui se lèvent en retard, accepteriez-vous d'être le parrain des retardataires?
Avec grand plaisir.
Merci Slimane.
Vous faites un beau cadeau ce matin, Slimane. Vous allez chanter votre chanson en live.
Oui, en piano-voix avec Yakov. Je vais chanter
ouais,
nous deux.
Nous deux. Et c'est une chanson que vous avez faite pour un ami qui.
C'est ça, pour un ami qui s'est fait quitter. Et je lui ai offert cette chanson pour peut-être qu'il renoue avec sa copine.
Ça a marché ?
Il se parle. j'espère que ça va.
C'est
ça
une
va
très belle chanson en tout cas. On
Merci
vous écoute
beaucoup.
Tout de suite.
Si tu connaissais ma vie ici, mon cœur t'avait tout dit ici, je ne t'avais pas menti. si j'avais osé parler, si mon cœur t'avait touché, si tu savais pardonner. Même si c'est mort, même si t'as peur, même si j'ai tort, si ce n'est qu'un leurre que dans le décor, tout est cassé. C'est pas fini, nous deux, c'est que le début, nous deux. Même si c'est fou, nous deux, je t'en prie, reviens. C'est pas fini, nous deux, c'est que le début, nous deux. Même si c'est douloureux, je t'en prie, reviens. Nous deux, 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 nous deux, 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 yeah, 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 yeah. Et si les souvenirs des photos, et si c'était nous, c'était beau, et si ça vaut ce que ça vaut. Pense un peu à moi ici, je te manque quelquefois ici, tu as besoin de mes bras. Même si c'est mort, même si j'ai peur, même si t'as tort, si ce n'est qu'un leurre, je nous jette un sort pour oublier. C'est pas fini, nous deux. Tourner en arrière, de te dire ça ira. Et si nous ne sommes que poussière, si l'amour ça se perd, tant pis, nous deux ça ira.
Ouais, merci beaucoup.
Ça m'a donné envie de quitter ma femme pour lui chanter.
Et alors, sentimentalement, ça va bien, Slimane, pour vous ?
Tout va très bien.
C'est vrai ?
Et vous ?
Oh là là !
Bim,
vous avez deux heures. L'émission n'est pas assez longue.
Merci, Slimane, d'être passé nous
merci
voir.
Merci à vous.
On rappelle merci. Donc cet album Solune Renaissance, avec un duo avec Vita, un duo avec Camille Lelouch, ouais. et puis... Et un hit Bella Ciao feat Maître Gims d'Adieu Vita Nestro. Je suis trop moderne.
Ah, vas-y, chante-le nous pour voir, c'était le tube de l'été.
Allez, chante-le nous. Non. Mais lui, il chante bien. Allez-y, un petit bout, un cappella.
Non, mais tu sais, il y a une chanson que c'est pratiquement sûr que tu la connaisses. C'est une reprise de Brel qu'il y a sur mon album. Ça ouais. s'appelle La chanson des vieux amants.
Tu
me fais un petit bout ?
Moi ?
Oui.
Mais non, toi ! Allez, un petit bout, Slimane Acapella.
Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, Anne, je t'aime. Wow.
Merci, Slimane. Nous sommes très heureux de recevoir la fille cachée de Jacqueline Maillan et d'André Bourvil. La digne descendante de Maria Paco mais de Marthe Mercadier, une picarde à la voix rocailleuse et aux yeux rieurs, une amazone de l'humour, une actrice populaire et branchée, une femme sexy. Mademoiselle Chantal Latsou est notre invitée.
Ouais. Bravo.
Quel joli portrait, vraiment. C'est tout à fait ça, oui.
Bonjour Chantal Latsou.
Bonjour.
Alors, on a le plaisir de vous recevoir à l'occasion de votre nouveau spectacle que vous donnerez en tournée et aussi au Casino de Paris. Spectacle qui s'intitule On the Road Again. Alors, ce sera au Casino de Paris du 12 au 19 janvier 2019. Chantal
voilà,
Latsou.
2019, oui.
Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce spectacle ?
Des nouvelles choses. Il faut bien faire des nouveaux trucs, hein, parce que c'est pas toujours les mêmes trucs, tu sais ce que c'est. Je vous vois, je vous tutoie.
Oh non, on se vous voit.
On se vous voit, très bien.
On est collègues de travail.
Exactement.
Vous êtes magnifique sur l'affiche.
Ah oui, vraiment.
Mais pas que sur l'affiche.
Oui, voilà.
Merci, merci. Sur l'affiche, je suis magnifique, oui. Eh bien, ça va parler de tout un tas de choses. Je vais un peu plus me livrer sur ma carrière, mes débuts au cinéma.
Ouais, parce que maintenant, vous tournez beaucoup au cinéma.
Je tourne pas mal. Je suis dans un ou deux films par an. Ah oui, il ne faut pas les louper, déjà, qu'ils sont un peu loupés, quand même. Non, je plaisante.
Mais pendant des années, vous ne tourniez pas du tout au cinéma. Ça s'est déclenché à quel âge?
Ça s'est déclenché assez tard. Ça s'est déclenché il y a 2-3 ans, en fait. Hein.
Et donc, moi, j'avais tous quand les espoirs sont permis.
J'avais des propositions importantes.
Ah oui?
Mais je n'ai pas voulu me mettre nue quand j'étais plus jeune,
c'est
voyez.
Vrai
oh, c'est dommage.
Mon père me disait, voilà, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas faire du théâtre à Paris, tu vas devenir quoi? Une pute. Alors,
donc, vous avez vraiment pensé. Eu des propositions pour être nue plus jeune?
Ah oui, j'avais proposé, par exemple, j'avais passé le casting des Balseuses.
Ah oui,
on m'a demandé de montrer mes seins
oui.
à un moment donné.
Ouais.
Et donc, j'ai pas voulu.
C'était ils pour ont la scène du train, c'est ça ?
La scène pour le rôle de Miu Miu.
Ah, Miu Miu, carrément.
Et pas pour le rôle de Depardieu. Et donc, je suis allée faire des photos avec un copain, un peu ringarde, comme ça, dans les jambes de bonne. Et puis, le lendemain, je vais porter. Il me dit, mais moi, je veux pas voir tes photos. Je veux voir tes seins vivre à la caméra. Donc j'ai pas eu le rôle. Enfin peut-être que je t'ai peut-être aussi en balance. Peut-être que Miu Miu l'avait eu avant moi. Mais bon, j'ai raconté ça à Gérard Depardieu quand j'ai tourné avec lui il y a pas longtemps. Il m'a dit bah, t'as qu'à me les montrer maintenant.
Il change pas.
Vous jouez beaucoup sur le côté séductrice. Vous séduisez.
C'est naturel.
C'est
absolument naturel. Je suis obligée puisque c'est naturel. Je séduis beaucoup. Oui.
Faut l'expliquer à Anne parce qu'elle est en galère.
C'est vrai.
Ça suffit.
Mais il est pas gentil. Vous avez. Il est pas gentil.
Tu es en galère. Une jolie femme comme toi. Je trouve de plus en plus belle.
Merci.
C'est vrai.
C'est pas ce qui t'arrive.
Ouais. D'ailleurs, je vous jure que c'est vrai. Mais mon père, quand il a vu votre affiche, il m'a dit, dis donc. Elle est charmante, Anne Romanoff.
Ah oui,
elle est très belle.
Mon père, c'est moi, mais à 67 ans.
Oh là
ah non, mais c'est
non.
trop vieux.
Non.
Papa, si
c'est
tu entends cette émission,
ans,
je m'excuse pour l'humiliation que tu viens de subir.
Chantal Latsou, parlons de vous. Vous êtes mariée depuis 40 ans ?
42.
Comment on fait ?
On s'engueule beaucoup, c'est le secret. Bon, je saute toujours de la voiture en marche, oui.
Souvent, vous engueulez en voiture.
Ouais, on s'engueule en voiture beaucoup et je saute. Donc voilà, je suis très souple. Hein, je suis très souple. J'ai fait du judo étant jeune. Et maintenant, c'est lui qui saute, mais il ne se rend pas compte. Il se rend pas compte qu'il conduit aussi. C'est ça le problème, oui.
Vous engueulez vraiment beaucoup, c'est pas une.
Si on s'engueule beaucoup, c'est ça. Ce sont des engueulades soupolées. Ouais. C'est-à-dire que je vais chercher du pain, j'ai oublié que je me suis engueulé. Si vous... Ou alors on s'appelle 2 minutes après, on s'engueule plus. Ouais. Mais c'est vrai qu'on s'entend beaucoup mieux au téléphone qu'à la maison.
Chantal Latsou, le début de votre carrière a été un petit peu lent, on va dire.
Oui, mais je suis lente. Hein.
Vous êtes
je
lente.
Je suis un petit peu lente. Mais j'avais aussi tourné quand même avec des gens comme Buñuel, comme Alain René, etc. Donc, mais je suis lente. J'avais envie de prendre. Je prends mon temps en fait. Je vis. Voilà, donc j'avais envie de m'occuper de mes enfants au début, et puis à un moment donné aussi, je crois que ce que je suis, mon personnage, vraiment mon personnage, c'est un peu prétentieux, mais je veux dire, ce que je suis peut-être faisait un petit peu peur aux gens, à un moment donné.
Vous étiez moins affirmé de toute façon.
Moins affirmé, oui, moins affirmé, puis un jour je me suis rencontré moi-même, et je me suis dit enchanté, et puis voilà, je me suis dit autant être soi-même, et puis
mais alors vous soignez énormément l'apparence physique, parce que...
Oui, aujourd'hui j'ai coiffeur, vous trouvez ?
Toujours un blond très délicat.
C'est vrai, toujours un blond assez délicat,
vous avez vous êtes très bien foutu.
Ah ouais, vous avez les jambes incroyables.
Ah oui, mais cette fois-ci je ne les montre plus, voilà, c'est fini, je me suis en pantalon.
Pour une comique, vous êtes bien foutue.
Je suis bien gaulée.
Mais ça veut dire quoi, ça ? Il y a
bah
des comiques.
Mais pas toutes.
C'est vrai qu'en général, elles sont pas terribles. Bon, y en a quelques-unes qui sont bien. Mais je te trouve de plus en plus belle. Alors, je voudrais pas que tu me fasses concurrence, quand même.
Et Anne, t'as des jambes incroyables aussi.
Oui, j'ai des jolies jambes.
Ouais, il a envie de revenir, lui aussi. Hein.
Alors, Chantal Latsou, vous êtes née à Tourcoing, ce qui a dû contribuer à développer votre sens de l'humour et de la survie en milieu hostile. Tourcoing, vous êtes donc enfuie très rapidement pour descendre à Paris.
Oui.
En fait, tout le truc, c'est que tout le monde croit que vous êtes bruit, alors vous êtes juste ch'ti.
Oui, je suis ch'ti.
On vous a jamais entendu avec l'accent ch'ti.
Non, parce que en fait, moi, je suis un petit peu, comment dirais-je, pas choqué, mais pas frustré, mais comment dirais-je, un peu. Bon, je n'arrive pas à trouver mon mot, mais ma mère était parisienne et elle détestait cet accent parce que pour une femme, je suis quand même pas beau de parler comme chaud, comme ma mère. Et donc, elle a toujours lutté. Et mon père, il parlait comme chaud. C'était un entrepreneur dans le Nord, il parlait comme chaud. Et donc, elle a toujours lutté pour que ses enfants n'aient pas l'accent. Donc moi, j'ai pas l'accent du Nord, mais je peux très bien le prendre parce que je suis comique quand même. Hein.
Ah. Ouais, faut le dire à Danny Boone.
Oui, non, c'est vrai. Mais Jean-Phil, d'ailleurs, Jean-Phil Janssen aussi, il a l'accent.
Mais aussi, je viens de Schnorr, là, un peu parler comme chaud, là, de toute l'émission, le chanteur, là.
Bah, ouais, on peut parler comme chaud. Mais pour une femme, je suis pas terrible, là, quand
non,
même.
Pas terrible,
même
pour un homme, c'est pas terrible.
Hein. Non plus, je suis quand même pas très féminin, quand même. Hein.
Et votre père rêvait que vous repreniez l'entreprise familiale.
Alors, mon père, oui, à un moment donné, j'avais commencé à faire du théâtre à Paris, je ramais déjà, puis j'avais tellement envie de faire ça. Parce que ma mère, je pense, avait voulu faire ça, mais elle me disait, si j'avais pas eu la guerre, j'aurais été comédienne. Donc elle a dû m'insuffler cette passion. Et
vous dites que votre mère était très joyeuse et que vous avez hérité de sa joie de vivre.
Oui, très heureuse, très joyeuse. Et les gens venaient l'écouter chez le coiffeur, elle racontait sans arrêt des histoires, des trucs.
Elle faisait rire les gens.
C'était un spectacle,
aussi.
Oui, c'est ça. Et moi, j'étais là, je regardais ça, fascinée. Et mon père, un jour, a déjeuné avec moi, il m'a dit, aucun des garçons et des cousins reprennent l'entreprise. J'ai un ami et plombier d'entreprise de plomberie, sa fille reprend l'entreprise. J'aimerais que tu reprennes l'entreprise. C'était charpente métallique et charpente bois.
Ça fait envie.
Avec des gars sur le chantier et tout. Et surtout qu'il m'emmenait déjà petite sur les chantiers. Il m'emmenait aussi au football à Lens et tout. J'avais un peu une vie de garçon, moi. Et puis j'ai dit, je crois pas, j'ai pas trop envie. Mais j'adore bricoler, j'adore refaire les vieilles maisons, j'adore aller sur les chantiers. Donc ça m'est resté ce truc-là. Mais je voulais pas, quoi. J'ai pas voulu.
Alors après, vous êtes devenue démonstratrice vendeuse chez Ranx & Rox ?
Ouais.
Vous vendiez des photocopieurs ?
Oui, je faisais la démonstration.
C'était comment ?
Ben, c'était très dur.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire que j'allais le soir au cours Simon à partir de 8h et la journée, j'allais apprendre aux gens à servir des 3600 trieuses. Il fallait que j'aie des gros trucs à apprendre. J'apprenais rien du tout. Je me souviens, je suis allé chez Dassault Aviation Service Direction et je me souviens d'avoir remué le tonnerre, qui est une poudre très très fine. Et je me dis, il faut le remuer le tonnerre. J'avais lu ça vaguement. Remuer le tonnerre, il y en avait partout. Sur la chemise du PDG, sur le tailleur blanc de la secrétaire. Enfin, ça a été un scandale. J'ai été redressée, etc. Parce que je ne savais pas m'en servir, en fait.
C'est là où vous avez rencontré votre mari.
J'ai rencontré mon mari le mois de préavis, en fait.
Quand vous étiez virée.
Oui. Il m'a dit, j'étais virée, oui. Il m'a dit, parce qu'en fait, j'avais abandonné le truc. J'avais une amie qui vivait avec moi, Monique, qui habite à Londres maintenant, et elle avait trouvé un super job, parce qu'elle faisait des vêtements, elle était styliste, elle était très libre, et moi, elle avait trouvé un super job, c'était le rasoir Gillette G2, pour aller les promotionner dans les salles de rédaction avec tous les journalistes. On était suivis d'un buffet campagnard, on était habillés en mini-jupe avec un collant bleu, et on allait raser...
Ah, ça, vous l'avez fait aussi.
Raser les rédacteurs en chef et les rédacteurs... Et j'étais encore chez Ranx & Rox, et un jour on m'a vu sur les Champs-Élysées avec des collants bleus et une mini-jupe, hein, avec des talons comme ça, dorés. Et là, on m'a appelé à la direction, on m'a dit « Bon Chantal, il faut que tu choisisses, je préfère que tu donnes ta démission. » Et à l'époque, si je m'étais fait virer, mon père aurait râlé, enfin il aurait été vexé, on se fait pas virer. Donc voilà, donc j'ai donné ma démission, et mon mois de « tu te tais », et mon mois de démission, j'ai connu mon mari. Qui m'a dit, mademoiselle, j'ai un problème en clientèle, est-ce que vous pouvez venir voir ? Et voilà, c'est comme ça que depuis 42 ans, je suis avec lui.
Vous êtes en clientèle, quoi.
C'est joli comme histoire.
C'est très beau.
Et quand je vois le fond bleu d'Europe 1, c'est un peu la couleur de mes collants que j'avais. C'est pour ça que j'aimerais raconter cette anecdote.
Et c'était quoi son problème en clientèle à votre mari, Chantal Latsou ?
Je ne me souviens plus. C'était son problème à lui, je crois.
Et tout de suite, ça a été le coup de foudre ?
C'était le coup de foudre. Il m'a dit, le lendemain, il m'appelait, est-ce que vous voulez je vous emmène à Saint-Tropez ? J'ai un copain qui ferme son bateau. Je lui dis, qu'est-ce qu'il croit, lui ? Je vais pas venir comme ça tout de suite. Hein. Bah oui. Puis finalement, je suis venue 2-3 jours après en stop. J'ai pris du stop pour aller à Saint-Tropez le rejoindre.
Et là, ça a été...
Et là, c'était, voilà. Depuis 42 ans, c'est dingue.
Et depuis 42 ans, c'est l'engueulade.
Voilà.
C'est génial.
Chantal Latsou, quand vous avez découvert ce métier, que les choses ont commencé à vraiment très bien marcher, les gens maintenant changent d'attitude avec vous, que vous êtes devenue à la mode pendant longtemps.
Je me rends pas bien compte de ça en fait.
Non.
Non. Non, les gens ont toujours été en fait sympas.
Ouais.
Non, franchement, j'ai toujours eu cette. Au départ, j'avais succès d'estime dans les pièces de théâtre. Voilà, j'étais une comédienne marrante. dans les pièces de théâtre, les gens venaient, etc. Et puis, à partir du moment où j'ai fait mon one-woman show, c'est-à-dire quand on commence à ouvrir un peu sa gueule, finalement, vulgairement parlant, sur les plateaux, etc., eh bien là, oui, c'est vrai, ça a démarré bien. Mais sinon, je ne me suis pas rendu compte de ça, non. Franchement, c'est pareil.
C'est pareil ?
Oui.
Mais les gens vous parlent plus dans la rue, vous reconnaissent plus.
Ah oui, ça oui. Les gens, maintenant, je ne peux plus l'ouvrir, si vous voulez. Si je demande, Michel, il reste du lait à la campagne, par exemple. Michel, il reste du lait, tout le monde se retourne comme ça, c'est la voix. Et l'autre fois, j'étais justement à la campagne, à la voix au supermarché, je dis, Michel, il reste du lait. Et il y a un couple qui s'est retourné, et le monsieur, m'a dépassé pour revenir de face. J'ai vu qu'il me regardait comme ça, et puis il a dit à sa femme, je peux te dire, c'est pas elle, elle est moche, celle-là. Hein.
Christine Béroux a des choses à vous dire, Chantal Latsou.
Oui, ça compte beaucoup pour moi de recevoir Chantal Latsou, mais je veux pas en faire trop. C'est pourquoi je lui dirai juste... Oh, Chantal Latsou, prêtresse de l'humour, grande papesse de la galéja, déesse de la méga poilade, je me prosterne devant le fanal de votre talent, moi, pauvre petite roturière du jeu de mots. J'en fais peut-être un tout petit peu trop. Pardon. Alors, Chantal, vous êtes née à Roubaix, comme Étienne Chatillez et le catalogue de la Redoute. Enrico Macias chante que...
Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas dehors.
C'est vrai, vous avez le soleil dans le cœur et alors dans votre cerveau c'est plus compliqué, hein, vous n'êtes pas toute seule. Oui. Si Enrico Macias avait dû lister le nombre de personnes qu'il y avait dans votre tête, ça aurait fait une très longue chanson. Vos débuts, c'est le Petit Théâtre de Bouvard, mais aussi La Classe. Alors La Classe, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école d'humoriste. Anne, vous avez également fait cette école d'humoriste. Mmh, et wow. Vous en avez fait une autre école d'humoriste qui s'appelle Sciences Po. Et comme Anne, Chantal, vous avez su garder votre popularité des années 80. En bref, vous avez réussi là où le Minitel et Patrick Sabatier ont échoué. Qu'est-ce qui fait votre succès ? On ne comprend pas toujours ce que vous dites, mais on continue de vous inviter dans les médias. Vous êtes le pendant féminin de Jean Lassalle, mais en plus drôle et en plus glamour. Et ce qu'on sait moins, c'est que vous avez tourné avec Louise Buniel, Alain René et Claude Lelouch. Votre page Wikipédia est une des seules à être validée par Rire et Chanson et Télérama. Alors Chantal, quand on vous voit au théâtre, c'est toujours un succès. Moi, je vous ai adoré dans Adieu, je reste. Une phrase qui dit une chose et son contraire, c'est pas un titre, c'est un discours d'Emmanuel Macron. Alors, on m'a dit, je suis, que vous feriez de la radio, mais sur une autre antenne, franchement, ça m'étonnerait parce que j'ai vérifié, il n'y a qu'une antenne sur Europe 1. Vrai ou faux ? Mais moi, je voudrais révéler de vraies choses sur vous, comme la manie que vous avez d'appeler très facilement les gens mon chou. Hein. Alors, j'ai essayé de faire comme vous, merci bien, j'ai dû changer de banquier. Alors, je voulais aussi raconter un des plus beaux moments de ma vie, quand j'ai fait votre première partie au Pôle Nord. Oui, c'est vrai. Alors, oui, Chantal et moi avons été au Pôle Nord et j'ai quelque chose à dire aux enfants qui nous écoutent. Mes chéris, on a investi sur place et on pense pouvoir affirmer que le Père Noël n'existe pas. Joyeux Noël ! Alors, Chantal, vous êtes vraie et vos personnages aussi sont vrais parce que sur scène, vous parlez de Michel, votre mari, qui existe vraiment. Et je me disais, vous pourriez faire un duo, le faire monter sur scène avec vous. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, vous ne le laisseriez pas parler. Donc, ce ne serait pas un duo, mais de la ventriloquie. Tremble, Jeff Panacloc. Alors, Chantal, vous êtes parfaite. Et je me disais, trois jours après l'élection de Miss France, dans les radios, c'est de bon ton de recevoir Miss France. Mais franchement, entre Miss France et Chantal Latsou, je dois vous avouer que c'est Miss France qui me donne moins de complexes. Voilà. Vous avez compris ? Ça veut dire que je suis très complexée devant Chantal Latsou. Non, mais parce que voilà.
Parce qu'elle est super douée.
Parce que c'est un petit peu genre, elle touche les étoiles, quoi, à un moment donné. Vous aussi, Anne, mais c'est différent. Non, mais parce que voilà. Alors, il est temps de conclure cette chronique.
Tu tambours. Ouais.
Alors, un grand merci d'être vous, Chantal, et vivement le Casino de Paris.
Merci Christine.
Vous êtes maintenant grand-mère, Chantal Latsou ?
Oui.
Quel genre de grand-mère vous êtes ?
Je suis, je crois que je suis assez grand-mère poule, mais beaucoup d'émotions pour le public, forcément. Les gens ne le croient pas. Mon mari, il n'y a pas de problème. Il en a l'âge, il en a le physique. D'ailleurs, dernièrement, on était au restaurant et il s'est absenté deux minutes. Et la jeune serveuse a demandé, votre papa prendra un café aussi.
Vous lui avez doublé le pourboire à celle-là, je pense.
Non, mais c'est merveilleux d'être grand-mère. Vous vivrez ça dans très longtemps, vous, puisque vous êtes très jeune. Mais c'est autre chose. C'est-à-dire, je me sens la fille de ma fille maintenant, en fait. C'est un rajeunissement. C'est une façon de rajeunir. Parce qu'elle est beaucoup plus...
Responsable, c'est ça.
Elle est responsable, elle est maman et tout. C'est chouette.
Mais vous êtes faux folle comme grand-mère, vous faites ?
Non, pas du tout, en fait.
Non ? Vous êtes normale ?
Oui, je suis normale, oui.
Et vous leur parlez avec une grosse voix au
Non, la voix, il aime bien ma voix, il rigole quand j'arrive, oui. Puis on se demandait aussi, papy, mamie, pépé, mémé, pépère, mémère, on se demandait comment se faire appeler. Et donc on s'est dit, on va laisser les beaux-parents de ma fille se dévoiler. Donc les beaux-parents de ma fille sont devenus Pépito et Mamita.
Ah, ouais, c'est pas mal ça.
On n'est pas chez les Gypsy Kings non plus. C'est la gueule de Pépito. Moi, mon petit-fils, il a choisi. Hein. Ouais. On l'a laissé libre. Moi, c'est Momi.
C'est pas comment il faut le prendre.
Et mon mari, c'est Yoda.
Je vous présente un homme qui craque pour vous, Chantal Latsou, Laurent Barra.
J'attendais ce moment avec impatience.
Quelle belle voix.
Oh, c'est trafiqué. Bonjour Chantal. C'est bien connu, l'humour permet de faire passer des messages bien plus profonds et bien plus personnels, en espérant secrètement qu'une oreille attentive sera là pour vous écouter. Eh bien, rassurez-vous Chantal, après moult visionnages de vos sketchs, j'ai entendu vos appels au secours. Je n'arrête pas de m'engueuler avec mon mari. 42 ans de mariage. Et aucune remise de peine, monsieur le président. Un jour, vous vous réveillez, vous avez un vieux dans votre lit. Vous déposez Brad Pitt et vous vous retrouvez avec Marguerite Duras. Bouleversé par ce cri de détresse, je ne vous cache pas que j'ai insisté auprès d'Anne Roumanoff pour être présent aujourd'hui dans l'émission, car je n'ai pas peur de le dire, j'ai l'intime conviction que tels Brigitte et Emmanuel Macron, nous sommes faits l'un pour l'autre.
Ah.
Vous rigolez. Je vois à votre regard interloqué que vous êtes en train de vous dire « Mais qu'est-ce qu'il me veut, ce petit con ? Appelez la sécurité, nom de Dieu ! Foutez-lui un coup de taser !» Et je comprends votre étonnement, mais à la fin de cette chronique, vous ne pourrez plus nier l'évidence. La semaine dernière, nous voyant tous au bout du rouleau, après 4 mois de travail acharné à ses côtés, Anne Roumanoff nous a envoyé un petit mail empreint de douceur et d'émotion. Mardi, cocktail dînatoire pour fêter la fin du premier trimestre. Stop ! Merci de confirmer votre présence. Stop ! En me précisant si vous venez accompagner, oui ou non. Stop ! Enchanté, je confirmais ma présence, mais aussi incroyable que cela puisse vous paraître, je serai seul ce soir, sans cavalière. Car hélas, à 40 ans, je n'ai pas encore rencontré la bonne personne. Car je l'avoue, j'avais une faiblesse pour les femmes plus jeunes que moi. Ma dernière copine avait 28 ans. C'est beaucoup trop jeune, beaucoup trop jeune. Pourtant, elle avait un boulot, une voiture, un appartement, c'est une contribuable, mais elle dormait avec un doudou. Le premier soir, quand je suis allé dormir chez elle, elle m'a dit « Ça t'embête si Luc dort avec nous ?» Je lui ai dit « Mais c'est qui, Luc ?» Et là, elle me sort un ours en pluche sans bras, sur lequel elle a dû régurgiter au moins 500 fois. Elle me dit « C'est lui, c'est mon doudou. » Non, je ne veux plus de tout ça, Chantal. Je ne veux plus de tout ça. Je veux de la maturité, de l'échange, de l'expérience. Je veux de l'arthrose, des chaussures orthopédiques chaules. Je veux du Scrabble le dimanche après-midi. Je veux du... Comment ? On parle plus fort ? J'entends pas. Je veux du... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-haut ? Je vois pas, c'est tout flou. Je veux du 19h déjà ? Allons nous coucher, mon chéri. Je veux de l'authentique. Parce qu'à la différence de toutes ces femmes de la génération des 2.0 qui retouchent leurs photos, s'enlevant au passage quelques points noirs ou autres rides, l'affiche de votre nouveau spectacle On the Road Again, sur laquelle vous apparaissez coiffé comme à dessous de bras après un semi-marathon, m'a émoustillé. Ouais, ça m'a émoustillé. Car vous êtes sur cette affiche comme vous êtes là, en face de moi. Belle au naturel. Prouvant que derrière la comédienne hilarante et touchante se cache, là-dessous, une femme pétillante.
Oh, ah, merci. Merci.
Alors, Chantal ?
Donc, j'ai eu succès quand même. Hein.
Ah oui ?
Faut que j'en parle à Michel. Hein.
Vous faites draguer dans la vie ?
Pas mal, oui.
C'est vrai ?
Oui, mais bon, j'arrive toujours à... J'aime bien quand même me faire draguer. C'est agréable quand même, non ? Ça rassure.
Oui.
Hein ? Oui. Parce que j'aime bien, par exemple, passer sous les échafaudages où il y a plein d'ouvriers. Vous avez remarqué, ils sont très expansifs, ces gens-là. À poil, salope.
Nous recevons un journaliste, auteur et philosophe. Sa sagesse n'a d'égal que sa modernité. Du haut de ses 80 ans, ses idées sont toujours au cœur de l'actualité. Auteur de 17 essais sur le temps, la psychologie et le développement personnel, il va nous faire commencer l'année sous le signe de la quiétude et de la connaissance de soi. Il est certain que son livre « 80 ans, un certain âge » va connaître un succès certain. Jean-Louis Servan-Schreiber est notre invité. Bonjour Jean-Louis Servan-Schreiber.
Bonjour Anne.
Alors on dit que c'est pas très poli d'évoquer l'âge de quelqu'un, mais là c'est le titre de votre livre. Alors je fais comment? Vous êtes un double quadra ou...
Là c'est moi qui l'ai fait, oui.
Oui.
C'est ça, je suis un double quadra. J'ai fait une première moitié, j'ai écrit un livre qui s'appelait « À mi-vie au bout de 40 ans ». Vous savez, la fameuse crise de 40 ans, en fait c'est une crise de jeunesse. Et le dernier chapitre s'appelait « 2017 ». Donc, j'avais fait le pari, en quelque sorte, que j'y serais encore. Ben voilà, c'est fait.
Vous êtes un
reste, c'est durable.
Vous êtes un homme de 80 ans épanoui, Jean-Louis Servan-Schreiber ?
Ah bah oui.
Oui ?
Bah oui. Il faut profiter des derniers feux. Hein.
Les derniers feux. Alors, c'est votre 17e essai. Pourquoi ça s'appelle toujours un essai, alors qu'à chaque fois, c'est plutôt une réussite, vous le dire ?
Bah, vous savez, depuis Montaigne, c'est quand même un titre qui se porte bien, l'essai. Mmh. C'est la référence. Bon. Et quand on écrit essai, c'est presque avec modestie. Est-ce qu'on ose se servir du même vocable que ce sage universel ?
C'est une référence pour vous, Montaigne ?
Absolument, oui, parce que c'est un humaniste profond.
Jean-Louis Servan-Schreiber, vous écrivez que chaque jour de plus est un cadeau du destin. Vous viviez donc le moment présent. Mais alors, certains jours, quand même, sont parfois des cadeaux empoisonnés. Je veux dire, par exemple, moi, hier, j'ai pris un PV, 500 grammes, ma fille m'a demandé de l'argent, et je ne me suis pas dit que c'était un cadeau du destin. En fait, votre philosophie de profiter, ça marche quand on passe une bonne journée.
Alors, vous savez, j'ai une fille, Florence, qui a écrit un livre qui s'appelle « Trois kiffs par jour ». Et elle dit qu'il faut chaque jour, chaque fin de journée, se demander quels ont été les trois kiffs de la journée. Et je lui ai toujours dit, mais pourquoi trois?
C'est pas assez.
Ça peut être 10, ça peut être 20, chaque chose. Bon, ici, ouais. Par exemple, c'est kiff pour moi. Hein.
C'est vrai.
Donc voilà, des choses comme ça, il y en a.
Il y a des jours où on a des épreuves, on a du chagrin, on a des déceptions, des trahisons.
Mais on vit.
Des trahisons.
Oui. Non, mais vous avez pas. Je veux dire, vous avez eu votre lot d'épreuves dans la vie, Jean-Louis Servan-Schreiber.
Oui, j'ai eu mon lot d'épreuves dans la vie. Bon, bah, c'est plutôt plus calme maintenant. C'est mieux. Alors, les enfants sont casés, ils sont grands, ils ont des petits-enfants. Je suis très content. Enfin, voilà, la vie s'y sent court.
Oui, mais quand vous avez des épreuves, comment vous faites? Parce que aller bien quand... C'est le principe même du développement personnel. D'ailleurs, quand on dit aux gens, c'est votre regard sur la vie qui fait ce que vous vivez, quand on vit des épreuves terribles, l'épreuve, elle est là. C'est pas le regard qui fait. On peut se regarder dans la glace en disant, je vais bien, tout va bien. On est en deuil, on a du chagrin. Enfin, ouais.
Écoutez, je vous dirais très franchement, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de tragédie. Et c'est déjà un privilège formidable. Les épreuves, alors là, vraiment, c'est la vie courante. Et ben, quand il y a des épreuves, d'abord, mon réflexe, c'est plutôt de dire « calmos, mettons-nous tranquillement à regarder ce qui se passe ». Et le deuxième, c'est d'essayer de tenir bon et puis passer à autre chose. Jusqu'à maintenant, ça a marché. Alors, je ne dis pas que c'est une recette universelle. Hein,
bon. C'est une recette.
Ça, c'est vous parlez de vous, mais pour les autres qui vivent des épreuves.
Pour nous.
Mais il faut faire pareil, c'est tout.
Il y a mille façons de le faire. Il y a des gens qui se plaignent, par exemple.
Oui, moi, oui.
Et c'est insupportable pour les autres.
Du tout.
Non, mais c'est la double peine. Parce que non seulement on a une emmerde, mais en plus de ça, on se lamente.
Oui, mais moi, ça me soulage de me confier.
Alors, c'est bon pour vous.
D'accord.
Voilà, appelez juste quelqu'un d'autre.
Donc, on se plaint. Quoi d'autre comme solution, alors? Vous déconseillez de se plaindre.
De se souvenir des épreuves précédentes. Qui font qu'on se dit, bah oui, j'ai déjà franchi ça, c'est un petit peu de chasse, la vie. Hein. Les obstacles se présentent les uns après les autres. Et ben voilà, si j'ai surmonté ça, quand j'étais jeune chef d'entreprise, je me disais, à chaque fois que je revenais de 4 jours de vacances, je me disais, mais qu'est-ce qui va me tomber sur le dos? Après, ben ça s'est arrangé, parce que je me suis rendu compte que c'était jamais rien passé qui soit irrémédiable, y compris les coups vraiment durs. Oui, ça a été. Mais c'est très agréable d'avoir le sentiment après ça de remonter la pente. Je trouve que là, on a une vraie satisfaction et on s'en souvient la fois d'après en disant bah, « je l'ai fait, donc je le referai ».
C'est le conseil que vous donnez à Emmanuel Macron en ce moment?
Alors vous savez, ça c'est vraiment l'homme à la place de qui je ne voudrais pas être en ce moment.
C'est sûr, il va avoir du mal à la remonter.
Quand
la
je
porte.
Pense qu'on m'a proposé de faire de la politique et que c'était des choses qui étaient considérées comme naturelles dans ma famille, tout le monde faisait de la politique. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai reculé devant l'obstacle presque au dernier moment. Quoi. C'était parti pour ça. Et alors, chaque jour, maintenant, je me félicite en disant « Chouette, c'est un de mes kiffs, je n'ai fait toujours pas.
Alors, Jean-Louis Sarchard, vous avez beaucoup écrit sur le rapport au temps. Vous dites que le temps est un bien précieux. Comment on fait pour trouver du temps, prendre son temps, savourer le temps? Parce que quand on est bien, le temps passe trop vite. Et quand on a du chagrin, ça dure toujours trop longtemps. Et dans le temps, les gens vivaient moins longtemps, mais ils avaient plus le temps.
Oulala.
Bon, c'est très temporel.
Prenez le temps de répondre.
Le temps, c'est la vie, quoi. C'est la matière première de la vie. Il y avait d'ailleurs, j'ai mis sur Instagram récemment une découverte importante de l'Académie suédoise, qui est que chaque journée qui passe raccourcit notre vie de 24 heures.
Non.
Ils sont bons, ces Suédois.
Mais quand on y pense, c'est absolument tragique. Un coucher de soleil, c'est définitif, en tout cas pour la journée en question.
Alors vous dites aussi, Jean-Louis Sarrange-Rébert, que bon, les nouvelles technologies, évidemment, nous sollicitent tout le temps et morcellent le temps. Ça fait que le temps est éclaté et qu'il faut absolument méditer pour retrouver le temps intérieur.
La méditation, je ne dis pas que c'est la panacée universelle, mais ça oblige à revenir vers l'intérieur, alors que tout...
Mais moi, je n'ai jamais compris ce qu'on faisait quand on médite. On ne fait rien, d'accord ?
Mais tu te concentres... tu te concentres sur toi, sur le poids de ton corps dans le sol, sur ta respiration, et tu fais le vide.
On chasse les pensées parasitaires. Ouais. Et c'est dur.
Mais oui, mais
c'est
elles arrivent tout le temps, les pensées parasitaires.
Et ben voilà.
C'est pour ça que c'est dur.
C'est pour ça qu'on s'entraîne. Et on réduit un peu. Voilà. Ça prend très longtemps. Mais après 10 000 heures, ça va très bien.
Voilà. Alors, quand on regarde votre CV, c'est quand même assez incroyable. Tout ce que vous avez fait est tellement jeune. 25 ans, directeur de la rédaction des Échos. 27 ans, vous rejoignez votre frère Jean-Jacques à l'Express. 29 ans, vous lancez l'Expansion. Ensuite, vous avez enseigné à l'université de Stanford en Californie. En 1975, vous avez fondé le magazine Lire. Après, en 82, Radio Classique. C'est incroyable. Et après, vous avez racheté Psychologie Magazine. Vous l'avez fait passer de 75 000 à 350 000 exemplaires. C'est incroyable, cette vie jalonnée de succès.
Non, il y a beaucoup de gens qui ont des vies jalonnées de succès. Regardez Carlos Ghosn.
Mais comment vous expliquez comme ça ce parcours fulgurant que vous avez eu ?
J'avais faim, j'avais...
Ça m'amusait. Ça aide.
Ça m'amusait. Ouais. J'ai aimé être journaliste. Je suis né dans la marmite. Mon père avait fondé les Échos. Mon frère était à 25 ans éditorialiste au Monde, déjà. Et puis après, il a créé l'Express. Je veux dire, c'était naturel. Et j'ai aimé ça. Parce que...
Oui, mais après, vous êtes resté créatif, comme vous avez fondé le magazine Lire, fondé Radio Classique.
Oui.
Tout le monde n'est pas...
Il y a des Non, mais j'aime construire, voilà. Mais maintenant, non. Maintenant, je me contente d'écrire des livres.
Très bien.
C'est parce que j'ai commencé de bonne heure que je suis tranquille maintenant.
Et alors, d'accord.
Et vous êtes déjà sur le prochain ?
Je suis sur le prochain, oui.
Ouais.
Du coup, il a 120 ans, celui-là, ou...
Non, c'est pas forcément sur le temps, non. C'est
alors, j'ai lu aussi que votre ex-femme avait épousé une femme.
Mon ex-femme a épousé une femme, oui, bien sûr. Oui, c'est...
Bah, bien sûr.
C'est moderne.
Mais ça arrive. Et moi, ça m'a... Comment dirais-je ? J'exagérerais, on va croire que j'exagère, mais ça m'a, au moment où c'est arrivé, j'ai trouvé ça naturel. Parce qu'elle était contente. Et comme je l'aimais beaucoup, elle a découvert ça
un mardi matin.
Il était 9h.
Pas en un seul jour, mais enfin, à un moment donné, à la suite d'ailleurs de notre séjour aux États-Unis, où on a découvert le féminisme, où c'était dans les années 70, tout ça était nouveau.
Vous n'avez rien découvert, vous. Elle s'éclatait.
Non, mais vous dites que vous auriez pu être attiré par un homme, que vous êtes posé la question plusieurs fois, mais qu'en fait, voilà, c'est pas votre...
Oui, c'est comme de fumer. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché.
Voilà.
Ah, vous avez essayé les hommes ?
Non, mentalement, oui.
Oui, mentalement. Oui. Il s'est projeté et il s'est dit que c'était pas
non,
son
truc. Non,
passage
à l'acte ne m'a jamais tenté dans ce domaine. En revanche, les chiens... non, mais... Je...
Alors, vous vivez, Jean-Louis Sarrange-Rébert, une très belle histoire d'amour avec une femme magnifique, Perla Sarrange-Rébert, qu'on a reçue dans cette émission.
Et oui, elle en garde un très bon souvenir, d'ailleurs.
C'est une chance de rencontrer une femme comme ça, avec qui on vit une
telle
relation.
C'est ma chance. C'est la chance.
Vous l'avez rencontrée à quel âge ?
Ah, bah tard. Elle n'était jamais mariée.
Ouais.
Elle avait un homme dans sa vie, mais elle n'avait jamais été mariée. Et moi, oui. Et je sortais d'une union de 25 ans, qui s'est d'ailleurs très bien passée, sauf forcément à la fin. Et donc, voilà, j'ai découvert cette personne qui est venue un jour me demander de faire un magazine. Parce que
patron de presse.
J'étais patron de presse. Elle voulait faire un magazine. Alors, elle m'a dit, voilà, je vous propose un magazine qui va s'appeler Chic. C'est un bon titre. Et puis, au cours de la conversation, j'ai regardé son sourire. Et je me suis dit... D'accord, on va essayer de discuter de ça, ça la fera revenir. Alors, à un moment donné, je lui ai dit, on va faire un budget. Mmh. Ça, c'est comme sur ce qui est de la drague, c'est un peu particulier. Et puis, j'ai fait le budget. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je crois que ça va me coûter moins cher de l'épouser.
Donc, vous n'avez pas fait le magazine et vous l'avez épousé.
Après, on a fait des magazines ensemble.
Ben Nash a fait votre portrait, Jean-Louis Servan-Schreiber.
Oui, Jean-Louis Servan-Schreiber. Aujourd'hui, j'ai face à moi un grand homme de presse, un homme de culture, un homme lettré, féru de psychologie et de philosophie. Quel plaisir d'avoir enfin un homologue intellectuel. Un semblable autour de cette table.
Ce melon.
Depuis votre entrée dans le studio, je me sens tellement moins seul, monsieur Servan-Schreiber. Je ne dis pas que mes collègues sont incultes, hein. Je dis juste que l'humour ne peut pas masquer toutes les lacunes du système éducatif français. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai essayé d'aborder le problème du court-termisme contemporain et la dictature qu'il représente dans nos sociétés avec Jérémy Lorca. Si vous voulez savoir à quoi ressemble la détresse, fallait regarder dans ses yeux à ce moment-là. On aurait dit Christophe Castaner devant une grille de mots croisés, ça n'avait aucun sens. Donc, cher Jean-Louis, ce midi, je ne peux que me réjouir de votre présence, vous, le grand patron de presse, fondateur de la presse économique avec l'expansion, mais aussi repreneur de la presse pour futurs divorcés avec Psychologie Magazine. Oui, parce qu'il faut que quelqu'un vous le dise un jour, Jean-Louis. Mon ex n'avait rien remarqué et tout se passait très bien avant votre article intitulé « Ce que ses absences disent de votre couple ». En un article, je suis passé de l'homme de sa vie à pervers narcissique infidèle. Si je suis devenu ce célibataire sentimentalement instable, c'est de votre faute, Jean-Louis Servan-Schreiber. De nombreux succès de presse, comme on le disait, au milieu d'une famille tout aussi brillante où si tu n'as pas fondé ton propre magazine à 25 ans, t'es clairement privé de bûche de Noël, espèce de loser. Mais Jean-Louis Servan-Schreiber, c'est aussi un essayiste et une obsession, le temps. Ce qu'on en fait, pourquoi ou comment, et qui passe inexorablement sans trop savoir pourquoi ou comment. Un parcours fait de réussites, d'échecs, d'expériences, de questions, de questions sans réponse et de réponses qui viennent comme l'arthrose sans qu'on ait rien demandé pour arriver à un constat que vous faites dans votre dernier ouvrage, et c'est vous qui le dites, c'est vos mots. Jean-Louis Schreiber, pardon, ça y est, vous êtes vieux. Un mot qui paraît presque interdit dans une époque où le marketing du politiquement correct a imposé le terme senior, hein, et grâce à vous, moi le jeune, je comprends qu'être vieux, c'est pas grave. Et je conclue par vos mots, monsieur Servan-Schreiber, quand on vous interroge sur le fait d'avoir 80 ans, vous offrez un précieux conseil à mon insolente jeunesse en répondant « J'apprends à considérer chaque journée comme une vie ». Merci, monsieur Servan-Schreiber.
Alors, Perla et moi, que vous avez cité puisque vous l'avez vu, nous menons à nos nombreux combats contre le mot « senior », qui est affreux, qui est une expression marketing qui ne veut rien dire. Tout ça pour dissimuler le mot vieux. Je ne sais pas si elle vous a raconté l'histoire de ce magazine féminin qui lui a demandé un éditorial au moment de son livre et qui a dit voilà, on a très envie que vous écriviez chez nous, mais est-ce que vous pouvez simplement peut-être essayer d'éviter le mot vieux dans votre article ?
Ah ouais.
Évidemment, il en a mis une tartine et c'est bon, je suis vieux, d'accord, mais je suis un jeune octogénaire.
Ouais.
Mais je rigole pas, hein. Je vois des gens de plus en plus, 98 ans, 96 ans. Mon cousin Jean-Claude est mort au mois d'avril dernier, le jour de ses 100 ans.
Waouh, c'est beau ça.
Et j'ai vu que ça pouvait arriver. Alors je dis absolument pas que c'est un objectif, parce que s'il y a une chose que je sais, c'est que je préfère mourir en bon état que de vivre très longtemps diminué. Mais ça, bon, c'est pour ça que je fais de la gym.
Il vous avez eu deux fois dans votre vie finalement des couples qui duraient. Jean-Louis Servan-Schreiber, 25 ans la
oui.
première fois. Là, ça fait plus de 30 ans avec Perla.
32 ans, oui.
32 ans. C'est quoi le secret d'un couple qui dure ?
L'indulgence.
Vous dites qu'il faut faire que la conversation est plus importante que le Kama Sutra et vous dites qu'il faut éviter de faire des conversations inintéressantes comme commenter l'actualité, parler.
Bon, je voudrais pas dévaloriser complètement le Kama Sutra. Hein. Vous avez vu quand j'entends cette ridicule polémique autour de ce que dit M. Yann Moix, qui dit « je n'aime pas les femmes de 50 ans », ce que je trouve vraiment... Ce qui m'étonne le plus, c'est que les médias donnent face de ça un événement, alors que c'est simplement quelqu'un qui donne ses préférences sexuelles, c'est son droit, mais ce n'est pas forcément en faire une règle. Ça m'a fait penser à une jolie chanson de Serge Eljani, que j'aimais bien, mais que je ferai à ma manière. « La femme qui est dans mon lit n'a plus 50 ans depuis longtemps ».
C'est vrai.
Vous dites justement, Jean-Louis Servan-Schreiber, j'ai un point de vue très critique sur les médias qui posent leur loupe sur n'importe quel incident pour le rendre important. C'est exactement ça, en fait.
Oui.
Vous ne pensez pas qu'à force de poser leur loupe, ils finissent par mettre le feu ?
Non, alors malheureusement, j'ai passé plus de 50 ans dans les médias. C'est ma vie. Je suis de plus en plus critique. Parce que je trouve que la manière dont on multiplie à l'infini les répétitions sur des mêmes événements, où chaque personne a le droit de dire n'importe quoi sur n'importe qui, on lui tend un micro, et il n'y a jamais de modération. Quand nous vivons une crise en ce moment où il y a beaucoup de gens ordinaires, simplement ils s'habillent d'une manière curieusement similaire, mais il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que du moment que je mets un gilet jaune, je peux dire n'importe quoi. Et je serai interrogé et ma parole aura à peu près la même importance que celle du président de la République. Ce système est mal foutu.
Mais comment on fait si on veut leur donner la parole? Parce que c'est ça.
Non, mais on peut filtrer quand même.
Alors, ce qui est vraiment différent cette fois-ci, c'est que comme ce ne sont qu'une série d'individus, il n'y a pas une structure. Avant, en mai 68, c'était facile, on discutait avec les syndicats, les partis politiques, et on se mettait d'accord sur un deal. Mais là, ce n'est plus possible, puisque chaque personne... Vous savez, j'ai suivi la crise des Gilets jaunes à travers les dessins de mon ami Gorce, c'est l'homme qui dessine les pingouins, et qui a fait des dessins formidables qui résument toujours parfaitement la situation. Il y en a un où on voit des pingouins gilets jaunes avec un qui leur parle et qui dit « Et de toute façon, ce qu'ils accepteront est inacceptable. » Et le dernier dessin que je trouve formidable, c'est ils sont en face et ils disent « Nous exigeons et n'essayez pas de nous piéger en nous demandant quoi. » Ça résume bien.
Léa Landau a des questions à vous poser, Jean-Louis Servan-Schreiber.
Oui, Jean-Louis Servan-Schreiber, rebonjour. Alors, vous êtes là pour le livre 80 ans, un certain âge. Vous dites que vous êtes vieux, donc à partir de quel âge on devient vieux? Je veux dire, Anne, elle est quoi alors à son stade? Elle est encore jeune ou elle est presque vieille?
Ah non, tout ça, tout le monde est très jeune. Moi, je me suis rendu compte que j'étais vieux quand ça me rappelle le dessin où on voit les deux vieux qui sont comme ça, vous savez, avec leurs mains sur leur canne, comme ça, ouais. Et qui sont à côté d'autres, et qui voient passer une jolie femme, comme ça. Et il y en a un qui dit à l'autre, « Ah, si j'avais encore 80 ans
!» Alors, Jean-Louis Servan-Schreiber, du haut de mes 40 ans, quand un plus jeune que moi me demande un conseil sur la vie, je lui réponds, « Profite, ça passe à une vitesse de 20 à 40, ce sont les plus belles années, sors, séduis, fais l'amour, encore et encore avant de défraîchir. » Et vous, vous diriez quoi? Donc vous diriez quoi, quelqu'un comme moi qui se demande ce qu'il y a de mieux à faire entre 40 et 80?
Bon, évidemment que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de profiter de sa jeunesse. Hein.
Ouais.
Mais c'est pas une blague, hein. C'est quelque chose qui demande une certaine attention. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler tous les jours qu'on est plus jeune que demain.
C'est vrai.
Et de ce fait, c'est un kiff en soi tout seul. Bon, tout ça, c'est dans la tête. C'est-à-dire que la seule chose qui compte, c'est ce qu'on pense de ce qui se passe et non pas ce qui se passe. On peut toujours interpréter ce qui se passe en disant c'est horrible ou c'est formidable. C'est une question de tempérament. Donc, le travail sur soi pour se dire c'est moi qui peux décider que j'ai une vie formidable, même si c'est des petits détails. Même si c'est le fait que, ben, aujourd'hui, je suis content parce que j'ai mangé une glace à la vanille, voyez-vous.
Ça peut être aussi simple que ça.
Non, mais
c'est vrai.
Il y a des tas de plaisirs.
Alors, moi, à 40 ans, donc, je me dis forcément, à 80, c'est deux fois plus de galères, deux fois plus d'ex ou encore deux fois plus de cellulite. Je suis sûre qu'à 80, on se dit l'inverse, c'est deux fois moins d'énergie, deux fois moins d'envie, deux fois moins de rancard. On se dit ça ou pas?
Oui, mais ça repose.
Ah ouais, c'est pas faux. Alors à 40 ans, vous savez, moi, Jean-Louis Servan-Schreiber, j'ai déjà peur de la mort. Est-ce qu'à 80 ans, on a doublement peur ou au contraire, on est plus apaisé?
Bon, ça, c'est la question cruciale. Hein.
Ouais.
Incontestablement, vous savez, pour moi, mon image, c'est je suis dans un canoë, là. Je sais que je suis sur le fleuve Niagara. Et j'entends le bruit qui s'agrandit un petit peu plus chaque jour. Et ça, évidemment, c'est quelque chose dont sur quoi je sais que je ne peux rien faire. Donc, c'est sur moi que je dois travailler pour faire en sorte que ça soit de plus en plus un événement naturel. Alors là, on fait de la haute philosophie, mais toute la philosophie repose sur ça. Quel rapport on a à la mort ? Mmh. Et finalement, vous verrez, je vous le souhaite. Plus on avance, plus ça devient la question centrale et plus on apprend à accepter. Parce que la chose qui vient avec l'âge, c'est accepter. Renoncer et accepter de renoncer. Mm-hmm. Donc, il y a des choses qu'on fait moins et tant pis, c'est comme ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'il faut accepter que de toute façon, on est vraiment peu de choses, ça ne dure pas très longtemps. Alors, profitons-en un maximum. Et c'est la seule recette que j'ai.
Merci Jean-Louis Servan-Schreiber d'avoir été notre invité. On rappelle ce très joli livre, 80 ans, un certain âge, quand chaque journée devient précieuse, aux éditions Albin Michel. Un livre qu'on peut lire à tout âge. À partir de 35 ans, on peut lire 80 ans, un certain âge.
Oui, j'espère, parce qu'autrement, j'aurais pas beaucoup de lecteurs.
Merci beaucoup. Notre invité qui vient nous rejoindre, Donald Jacksman.
Salut Yann, comment ça va? Merci pour l'invitation, je te kiffe de ouf.
Tu es arrivé avec un quart d'heure de retard, Donald Jacksman.
Ah, ça, c'est les Noirs, ça, tu sais. Non, c'est pas vrai, Paris est bouché, il y a plein de travaux. Je sais pas ce que fait Anne Hidalgo, il y a beaucoup trop de travaux.
Alors, Donald Jacksman, il y a un one-man show, on ne se connaît pas, on ne se juge pas, depuis le 18 octobre jusqu'au 30 novembre à la Nouvelle-Ève, du jeudi au samedi à 20h.
Ouais, et le 5 janvier à la Cigale.
5 janvier, alors quand grande même, soirée bravo. À la Cigale.
Ouais, ce sera la dernière. Faut que tu viennes, Anne.
Bah, je
faut
vais
que tu
voir.
Viennes. T'es une personne qui compte beaucoup dans ma carrière, donc faut vraiment
c'est
que
vrai
tu viennes. Ouais, pour cette dernière, je veux que tu sois là.
Bon.
Pas le choix, c'est comme ça. Pourquoi elle compte beaucoup? Moi, j'aimerais bien savoir.
Bah, parce qu'elle fait partie des artistes à son niveau de superstar qui a toujours pensé à moi, qui m'a mis dans plein de plans. La première fois que je rencontre Anne, peut-être qu'elle s'en rappelle plus, c'était à la Route du Rire.
Si, je m'en rappelle.
Je gagne la Route du Rire et c'est Anne Roumanoff qui était la marraine de ce prix de jeunes talents. Il y avait plein de jeunes talents, il y avait Verino, Mathieu Madénian, tout ça, on commençait. Et Anne, je gagne le prix, et elle me dit un truc, elle me dit bravo, félicitations, tu sais, moi j'ai jamais gagné aucun prix, mais j'ai fait une carrière. Et après, elle est partie.
Et c'était surtout un truc incroyable, vous gagnez votre premier concours et vous gagnez une voiture.
C'est ça, c'est à l'époque.
Non, c'est
Volkswagen voulait faire du placement de produit mais sans payer la pub, donc ils se sont dit on va mettre une voiture à gagner, et je l'ai gagnée. L'année d'après, c'est Shirley qui a gagné, ils lui ont prêté la voiture. L'année d'après, c'était Charlotte Gabriel et ils lui ont payé un voyage.
Elle avait un vélo.
Et là, vous avez gagné une vraie voiture, ouais, vous n'aviez même pas le permis.
J'avais pas le permis et je l'ai passé à ma mère.
C'est vrai.
Et elle a enfin compris mon métier.
C'est génial.
C'est super d'offrir une voiture à sa mère. Parce que vous étiez jeune, c'était il y a 10 ans, 15 ans.
Ouais, il y a 20 ans, j'y avais.
Parce que là, vous avez 37 ans et c'était en quelle année ce concours?
La Route du Rire, c'était en 2008. 2008,
il y a 10 ans.
Il y a 10 ans, ouais.
Ouais.
Et la voiture est toujours là.
Ah ouais.
Ma mère, elle roule pas, elle fait le tour de...
Et vous avez passé le permis depuis dans le Jacksman?
Ouais, j'ai passé le permis 3-4 ans après, et j'ai essayé de récupérer la voiture, mais il n'y a pas eu moyen. Je me suis mis au scooter.
Dans votre spectacle, dans le Jacksman, vous parlez du Front National?
Ouais, je parle du Front National, parce qu'il y a un truc qui me titille toujours, c'est que je me demande comment aujourd'hui on fait encore pour croire en ce parti, quoi. On a du mal à croire à Macron qui est gentil, on n'y croit pas. Et ce qui m'énerve, c'est que les gens du Front National, quand tu leur demandes pourquoi ils votent FN, c'est toujours bizarre. Tu dis toujours, ouais, je vote FN parce que je suis déçu de la gauche, je suis déçu de la droite, donc je vote FN. T'as envie de dire, bah non, c'est pas logique. Parce que c'est comme si tu dis, j'aime pas la viande, j'aime pas le poisson, tiens, j'ai mangé de la merde. Personne ne se dit ça, tu réfléchis.
Et alors, vous rêvez de Marion Maréchal Le Pen?
Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'elle m'excite. C'est vrai qu'il y a, il y a un côté. J'ai fait un rêve une fois, j'ai rêvé qu'elle et moi, on était mariés.
Ah ouais?
Ah, c'était particulier, il y a ma famille d'un côté, la sienne d'un côté, au milieu des cartes de CRS, c'était vraiment très très particulier. Là.
C'est pas un rêve, c'est un cauchemar.
Mais moi je trouve que quand même, que même si on n'adhère pas aux idées du FN, il faut quand même reconnaître qu'elle est belle, la révolution Darwin, je trouve. Que Jean-Marie Le Pen, on l'aimait moins, tu sais, c'est... Marine Le Pen, c'est la touche féminine. Et Marion Maréchal Le Pen, je trouve qu'il y a un côté, les mecs, il y a des, on a buggé. Mmh. On s'est dit, elle dit de la merde, mais on va la niquer quand même. Tu vois, on s'est dit ça.
Alors, Johnny Hallyday, vous parlez de Johnny Hallyday dans votre spectacle, Daniel Jacksman?
Oui, aussi, parce que Johnny, j'étais au cœur d'un bad buzz avec Johnny. Ouais. T'as suivi ça? C'était le 4 décembre, j'étais en direct à la télé, et je fais une vanne comme ça.
Ouais. C'était dans quelle émission?
C'était à Montreux.
D'accord.
Donc sur France 4. Mmh. Et je fais une vanne comme ça en direct. Je dis, ouais, moi je pense Johnny Hallyday, il passera pas l'hiver. Je dis ça comme ça à la télé. Le lendemain, il meurt, Johnny, le 5.
Aïe.
Et là, j'ai reçu un message de tous les fans de Johnny, assez court et concis. C'est enculé. En fait, et mais le pire, c'est les messages, Anne, que j'ai reçus de la part de tous les Noirs et tous les Arabes. Ils m'ont dit, ouais, marabout, sorcier, tu parles avec le diable, tout ça.
Je crois savoir que l'artiste musical que vous aimez le plus dans Daniel Jacksman, c'est Michael Jackson.
Ah, c'est mon artiste préféré. C'est l'artiste qui me manque le plus. Et moi, c'est parti des fans. Je pense que tout ce dont on l'a accusé de son vivant, pour moi, est faux. Pour une raison, c'est que tous les parents qui l'ont traîné en justice, vous savez, ils ont tous retiré leur plainte contre de l'argent. Pour moi, c'est un aveu de mensonge. Parce que si on devait toucher votre enfant... abuser de lui sexuellement, est-ce que vous retirez votre plainte, Anne, pour 25 millions de dollars?
Oui.
Oh, je rêve.
Elle a pas répondu, elle a dit, oh.
Elle vend même son enfant avec.
Daniel Jacksman, c'est votre vrai nom?
Oui, c'est ouais. Mon vrai patronné, moi.
Ouais, et vous êtes Camerounais d'origine?
C'est ça.
Vous avez vécu en banlieue?
Ouais, à Villers-le-Bel, dans le 95, à côté de Sarcelles.
Et vous trouvez que vous avez vu plus de préjugés en arrivant à Paris qu'en banlieue, en fait?
Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de... Bah, en banlieue, on est habitué à être dans la mixité, dans la différence. Moi, j'ai grandi avec des Arabes, avec des Asiatiques, avec des Juifs, avec des Musulmans, avec des Chrétiens. On est habitué à cette mixité dans chaque étage. C'est souvent un cliché que disent souvent plein d'artistes de la banlieue, que chaque étage est un étage culturel. Mais c'est une vérité. On est habitué à ça. Et Paris, c'est une ville vraiment très, très solitaire en vrai. Moi, je viens de banlieue, j'ai passé plus de 25 ans en banlieue, je connais tout le monde dans ma ville, je connais tout le monde en bâtiment, je connais la garde, je connais tout. J'ai été dans chaque maison de banlieue. Et Paris, là, je vis dans le 12e depuis quelques années, je connais que ma voisine en fait. Il y a un truc très personnel à Paris où les gens veulent « me dérange pas, ouais, ouais. Tu sais, laisse-moi faire ma vie ». Et c'est un peu déroutant pour un mec de banlieue. Et puis quand au regard des autres, c'est la différence. Par exemple, moi, un cliché, moi je viens de Villiers, c'est collé à Sarcelles. Sarcelles, c'est l'une des plus grandes villes de la communauté juive. Le cliché de les riches, les juifs ont de l'argent, les juifs maîtrisent le monde, tous ces clichés-là, je n'avais jamais entendu ça en banlieue, je ne connaissais pas ces clichés-là. C'est quand je suis arrivé à Paris qu'on me dit, ouais, les juifs maîtrisent, je ne fais pas du tout, ils sont en galère à Sarcelles, ils n'ont pas d'argent, c'est ma mère qui leur donne à manger, c'est pas du tout ça.
Donald Jackson, vous aimez beaucoup Jamel?
Jamel Debbouze?
Ouais.
J'adore. Jamel, je kiffe. Alors, je sais, moi, comme je suis vraiment à l'écoute du public et je suis vraiment dans les banlieues, machin, je sais qu'il y a plein de personnes qui sont un peu artistiquement, qui sont un peu déçues de Jamel. J'entends souvent de « ouais, mais son spectacle est moins bien, Jamel raconte plus rien d'intéressant, machin ». L'artistique, je ne peux pas juger. Moi, je suis toujours fan de ses spectacles, mais l'homme, je suis fan de l'homme. Ce qu'il a fait, on se rendra peut-être compte plus tard, quand il disparaîtra, quand il sera plus là, qu'on lui rendra des hommages vraiment à la hauteur de ce qu'il a fait, Jamel. Mais il a ouvert une porte qui est incroyable pour les minorités. Il a porté sur ses petites épaules toute la banlieue, toutes les minorités. Il a ramené des personnages qu'on n'avait jamais vus en télé, des Noirs, des Arabes, des Blancs qui avaient autre chose à raconter que des trucs de province. Il a ramené toute une culture. Il a posé le stand-up sur la carte française. Et je trouve que vraiment, c'est incroyable. C'est le seul qui a fait ça. Et à son niveau, comme je dis, de superstar, vous êtes très peu. Il y a toi qui portes vraiment la jeunesse sur tes épaules. Et il y a Jamel. Et c'est très très rare les gens de votre niveau qui font ça. Et c'est exceptionnel ce qu'il a fait.
Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez.
Oui.
Non, mais c'est
je
vrai.
Je réalise.
C'est vrai. Bah, Anne, c'est à chaque fois, moi, à chaque fois que je suis tes trucs de loin, et tout le temps, tu as toujours donné de la force à la jeunesse, que ce soit dans tes tournées, dans tes projets, dans tes machins. Et tu pourrais le faire tout seul, tu t'en bats les couilles, tu pourrais faire ta vie.
Comme ouais, font je m'en bats les couilles.
Non, mais
en
c'est
écoutant
vrai.
Du Booba, tranquille.
Comme font les trois quarts des artistes, et pourtant non, et c'est respectable, vraiment. On peut applaudir Anne Romanoff, vraiment, c'est
parfait. Donald Jacksman, on vous a découvert grâce à On ne demande qu'à en rire aussi, vous en gardez un bon souvenir de cette émission?
Ouais, On ne demande qu'à en rire, ouais, c'était une émission proposée par Laurent Ruquier, c'était une superbe idée. Laurent, il avait une idée de prendre des jeunes talents de l'humour et qui se faisaient juger par un jury de personnes qui avaient raté leur carrière, en fait. Et on se faisait juger, il y avait Catherine Barma, il y avait Jean Benguigui. Des fois, Jean Benguigui, il disait, t'es pas comédien, on disait, toi non plus. Mais je garde une belle image de l'émission. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a apporté le travail, ça m'a apporté la rigueur, ça m'a apporté l'argent, ça m'a apporté la notoriété.
Et Laurent Ruquier, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup
oui,
aussi.
Lui aussi
Laurent Ruquier, exceptionnel. Oui. Il est très très bon. Moi, il m'a rendu connu. Dans la rue, les gens me reconnaissent. Hé, hey, ma gloire. Ouais, je continue mon chemin.
Donald Jacksman, vous militez pour qu'on mette les minorités beaucoup plus en avant?
Ouais, je sais pas si je milite, mais si c'est naturel. Quand t'es une minorité, bah, tu veux voir des minorités à la télé. C'est-à-dire que moi, je veux voir des minorités. Je veux voir plus de noirs dans la télé. Je veux voir plus d'arabes, je veux voir plus d'asiatiques, plus d'indiens. Je veux voir plus de femmes, je veux voir plus d'homosexuels à la télé. Et je veux les voir dans les pubs. Ça manque dans les pubs. J'aimerais voir des minorités dans les pubs. J'aimerais voir, je sais pas, des arabes dans les pubs, des musulmans dans les pubs, qui feraient des pubs pour de la charcuterie. Ce serait intéressant. Je rêverais. Ils viendraient à la télé comme ça. Juste un bruit doux, c'est doux, mais pas pour nous. Et il s'en va, le mec. Ce serait exceptionnel.
Alors, vous avez été témoin des attaques du 13 novembre dans la Jacksman, vous étiez là sur...
Oui, j'en parle dans mon spectacle, c'est vrai. Souvent, les gens me demandent si c'est vrai ou pas. Si c'est vrai, le jour où ça a tiré, je jouais à République, donc je suis passé pile poil où ça a tiré. Et ce qui est marrant, c'est que moi, dans mon inconscient, je m'étais toujours dit que si j'assiste à une prise d'otage, à un braquage ou à un acte terroriste, je pensais secrètement être le genre de mec qui allait essayer de désarmer les assaillants. J'avais vu les films de Chuck Norris, je m'étais dit, il y a moyen de faire quelque chose. Mais ça va beaucoup trop vite. Quand ça a tiré, je me suis caché comme tout le monde, je me suis caché derrière tout le monde, pour être vrai. Et on s'est mis dans un bar, et quand on est sorti au petit matin, j'ai reçu un texto de mes couilles qui m'ont dit, on te quitte, en fait, tu n'as plus besoin de nous.
Merci Donald Jacksman d'être passé nous voir.
Merci Anne, merci encore.